Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être là. J'espère que j'arriverai à vous intéresser à ces histoires de cinémathèque et de cinéma. Donc je suis directeur de la Cinémathèque Suisse depuis 2009, ça fait 7 ans. Je ne suis guère que le troisième directeur de cette institution depuis sa naissance. Institution très vaudoise, même si vous le voyez à l'écran, elle est aussi nationale. Pourquoi je vous montre cette image de logo de la Cinémathèque Suisse, qu'on appelle le logo fédéral, puisqu'il est bien décliné dans toutes les langues nationales, plus l'anglais? C'est parce que ce logo, de par son nom, raconte un tout petit peu l'histoire de cette institution. Le mot Cinémathèque Suisse, le nom Cinémathèque Suisse, c'est son nom d'origine, et elle est née comme Cinémathèque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au départ, elle est pensée comme un lieu destiné à conserver les films, certes, mais surtout à faire en sorte qu'on les voit, comme étaient toutes les traditions des cinémathèques. Alors je reviens un tout petit peu en arrière dans le temps. Dans les années 30, on s'est rendu compte, surtout dans les milieux des beaux-arts, en Suisse par exemple, le conservateur du musée des beaux-arts de Bâle, que les films anciens, les films de l'époque du muet, les films de l'expressionnisme allemand, disparaissaient. Ces films muets souvent étaient détruits, tout simplement pour qu'on puisse en récupérer les sels d'argent qui étaient contenus dans la pellicule, pour qu'on réutilise la pellicule pour en faire des peignes ou d'autres accessoires du même type. Résultat, on sait qu'aujourd'hui, à peu près 80% de la production de cinéma jusque dans les années 30 a disparu à jamais. Elle est tombée en effet dans l'oubli. Donc, ces gens qui aimaient la culture se sont dit c'est dommage, il y a une activité créatrice importante qui se développe dans le cinéma, prenons garde à le conserver et surtout à le montrer. Et c'est ainsi qu'à partir des années 30 sont nées des cinémathèques qui avaient ce but de conserver et montrer. Et la première cinémathèque suisse, elle n'est pas lausannoise ou vaudoise, elle est née à Bâle en 43, à l'initiative justement de Georg Schmidt, ce conservateur du musée des Beaux-Arts de Bâle, qui sur le modèle du musée d'art moderne de New York, le MoMA, va constituer la première archive cinématographique suisse, c'est comme ça qu'elle s'appelait, en 1943 pendant la guerre, avec l'aide de Henri Langlois, qui était le patron de la Cinémathèque française, qui est la première, en tout cas dans la région, à s'être créée, qui avait un peu cette finalité. Simplement, à Bâle, les choses se passent mal. Après la guerre, l'équipe de Bâle n'arrive pas à financer cette archive cinématographique suisse. L'anecdote veut que la ville de Bâle leur ait dit « Si vous voulez qu'on vous finance, demandez à l'ensemble du pays, on vous aide. » Et donc, des lettres sont parties à peu près dans plusieurs villes de Suisse et dans plusieurs cantons pour demander de l'aide afin que ces archives cinématographiques suisses puissent exister à Bâle. Il semblerait que seul le canton de Schwitz ait répondu en octroyant généreusement un don de 100 francs, ce qui évidemment n'était pas tout à fait suffisant pour que ces archives cinématographiques suisses subsistent. Ces archives étaient liées aux ciné-clubs, les ciné-clubs de toute la Suisse, y compris évidemment le ciné-club de Bâle, qui est l'un des plus anciens de Suisse, qui existe toujours, et qui s'appelle en français « Le Bon Film ». Résultat, l'équipe du Bon Film et de cette archive cinématographique a fait appel à la communauté des ciné-clubs, et c'est celui de Lausanne, en l'occurrence le CCL, le ciné-club de la ville de Lausanne, qui a dit « Nous, ça nous intéresse ». Et c'est ainsi qu'en 1948 est née la Cinémathèque Suisse. La Cinémathèque Suisse est aujourd'hui la sixième du monde en termes d'importance de collection, selon les statistiques de la Fédération internationale des archives du film. Elle contient dans ses archives 80 000 titres de films, soit à peu près 600 000 bobines de films, 2,8 millions de photos, 1 million d'affiches, 26 000 livres, des périodiques, des scénarios. Bref, une archive assez exceptionnelle que nous avons la chance d'avoir pas loin d'ici. On va y revenir. Voici cette image qui vous permet de vous rappeler des origines de la Cinémathèque Suisse. En 1948, donc, l'équipe du Ciné-Club de Bâle dit « Oui, ça nous intéresse ». Très vite, ils reçoivent un soutien de la ville de Bâle pour pouvoir démarrer l'activité de la Cinémathèque Suisse. Ils la fondent dans l'association. Et deux ans plus tard, en 49, pardon, les camions de la collection baloise de l'époque, qui comportait à l'époque 400 titres, vont se déplacer pour venir à Lausanne, et l'équipe du Ciné-Club de Lausanne se dit « il faut qu'on se fasse connaître de la population ». Et donc, ils décident d'organiser une semaine du cinéma dans la ville de Lausanne. Seulement, les salles de cinéma disent « ah non, 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 ça va nous faire la concurrence », donc elles refusent d'accueillir les programmateurs du Ciné-Club, et ils décident d'organiser des projections dans des salles qui ne sont pas prévues à cet effet, notamment dans la grande salle de la Riponne, du bâtiment de Rumine, où se trouve actuellement le Grand Conseil, certains d'entre vous la connaissent, c'est là qu'ils organisent des projections avec un projecteur portable, et au moment où ils veulent démarrer la projection, ils se rendent compte qu'en fait, le problème que ça pose, c'est qu'il faut changer de bobine toutes les 20 minutes. Donc il faut arrêter la projection et recommencer. Et le problème, c'est que l'invité d'honneur de cette semaine, c'est celui qui est au milieu de la photo, à savoir Eric von Stroheim, à la fois grand réalisateur et grand acteur du cinéma, américain surtout. Et Eric von Stroheim, invité d'honneur, imaginez de présenter Les Rapaces, qui est l'un de ses plus grands films, qui dure 4 heures, en faisant des pauses toutes les 20 minutes, c'était un peu catastrophique. Ben voilà, tant pis, on lui explique la situation, ça l'amuse beaucoup. Et il semblerait, selon ceux qui ont vécu cette projection, paraît-il historique, que Eric von Stroheim a profité de toutes les pauses pour raconter des anecdotes sur le tournage. La projection a duré évidemment plus de 6 heures, mais ça a été un grand moment de cinéma qui a marqué un peu les débuts de la Cinémathèque suisse. Alors, de l'autre côté de la photo, vous avez Denise Vernac, qui était une actrice de l'époque, une comédienne qui était amie de Eric von Stroheim. Et puis, avec les lunettes, c'est Claude Emery, celui qui a été premier véritable directeur de la Cinémathèque, même si ça a été éphémère, qui, avec Fabre, a été l'un des deux fondateurs de cette Cinémathèque. Le problème que ça pose, c'est que cette semaine du cinéma va plomber les finances, parce qu'ils ont dépensé énormément d'argent, ils ont organisé un bal du cinéma à l'hôtel Palace à Lausanne. Et le résultat des courses, c'est que la Cinémathèque était presque en faillite, juste 2 ans après être née. C'est alors qu'apparaît une figure qui a participé à l'organisation de ces semaines de cinéma, c'est bien sûr celui-ci, Freddy Buach. Freddy Buach, qui était plutôt critique d'art à l'époque, qui s'intéressait plutôt à la littérature, à l'art, au théâtre, il est un des fondateurs des Fournées, qui dit « mais moi, si vous voulez, j'aime le cinéma, ça m'intéresse, je suis prêt à travailler gratuitement pour la Cinémathèque ». Et c'est ainsi qu'en 1951, il est nommé directeur, directeur qui ne recevra son premier salaire de directeur de la Cinémathèque qu'en 1963. Donc il a travaillé 12 ans pour eux, enfin c'est comme ça, c'est la vie des Cinémathèques. Alors Freddy Buach est directeur, en 1952, la ville de Lausanne donne 2 pièces à la place de la cathédrale, mais il faudra attendre 1963 pour qu'il y ait la première subvention fédérale qui arrive et qui permettra de dégager un salaire pour le directeur, et c'est seulement en 1966 que s'organisent les premières projections bimensuelles seulement à l'aula du collège de Béthusie. Le problème de la Cinémathèque, c'est que jusqu'alors, elle n'avait toujours pas de lieu de projection permanent, de lieu pour vivre. Freddy Buach s'en plaignait aux autorités, notamment lausannoises, jusqu'au moment où, en discutant avec le syndic, il a dit « mais il faut vraiment qu'on trouve un lieu pour la Cinémathèque ». Alors ils étaient les deux sur l'esplanade de Montbenon. Freddy Buach, semble-t-il, s'est tourné vers ce qui était encore le tribunal fédéral à l'époque, qui maintenant est tribunal de district, sur l'esplanade en disant « bon, ça pourrait faire une parfaite cinémathèque ». Le syndic lui a dit « je peux difficilement te donner ça ». Mais par contre, ce bâtiment, le casino de Montbenon, était encore vide, plus ou moins vide à l'époque. Ça, on pourrait peut-être s'arranger pour en faire la cinémathèque. Au départ, tout le casino de Montbenon devait être le lieu de la cinémathèque. Ce ne sera que l'aile pour vous à droite, je vois la même chose que vous, je m'excuse, mais je dois travailler entre deux écrans. En effet, l'aile droite qui deviendra la cinémathèque et au sous-sol, pour ceux qui la connaissent, qui est construite une première salle, le cinématographe, une salle de 100 places, qui à partir de l'ouverture du bâtiment en 1981 va assurer des projections quotidiennes, 3 projections par jour, de façon régulière, tous les jours. En 1981, c'est l'installation Casino de Montbenon, c'est la naissance de la fondation, c'est-à-dire que l'association est transformée en fondation de droit privé. À partir de là commencent les projections quotidiennes. Mais le problème reste entier dans la mesure où Freddy Buach a fait beaucoup d'efforts pour enrichir la Cinémathèque au niveau de ses collections, mais il n'avait toujours pas d'endroit où mettre ses collections. Donc les collections étaient, un petit peu si j'ai bien compris, comme celles de la maison d'ailleurs aujourd'hui, disséminées de par la ville de Lausanne et dans les environs, et notamment des pellicules nitrates, c'est-à-dire grappes dangereusement inflammables, qui étaient entreposées dans les anciennes écuries en bois. Heureusement, il n'y a jamais eu d'incendie, sinon toute la collection était perdue. Donc il a fallu attendre, le bâtiment de Cosimo de Montmenon n'était pas prévu pour pouvoir abriter des collections, il n'y a pas la place. Et il faudra attendre l'achat en 1988 d'un bâtiment, un ancien bâtiment de relieur à Pantin, pour un prix à peu près correct, je crois que c'était 2 millions à l'époque, l'achat du bâtiment, une rénovation importante de façon à en faire les premières archives de la Cinémathèque suisse à Pantin. À partir de ce moment-là, évidemment, les choses changent un tout petit peu parce que économiquement, l'achat de ce bâtiment et des archives va plomber de nouveau les finances de l'institution. Berne, la Confédération commence à dire c'est un peu embêtant, notre subvention sert à payer les intérêts de la dette du bâtiment, et à partir de ce moment-là, la Confédération va faire en sorte qu'on change peut-être un peu les organes de direction de l'institution, et après 40 ans de bons et loyaux services, Frédéric Buache quitte la Cinémathèque, et on nomme, après les péripéties que je vous épargne, parce que c'est toujours comme ça quand un fondateur qui a été là pendant 40 ans doit disparaître, et doit se retirer, on nomme Hervé Dumont, qui devient le deuxième directeur de l'institution, et qui fonde aussi l'association des Amis de la Cinémathèque Suisse, qui vont participer à l'acquisition de copies et à l'enrichissement de la collection. Voici, donc, il est nommé en 96, et en 98, de façon à sauver l'économie de l'institution, le bâtiment de Pantin est racheté par la Confédération. Mais très vite, on se rend compte que les collections débordent, à savoir que peu après l'acquisition par la Confédération du bâtiment, les collections commencent à être de nouveau disséminées dans d'autres locaux. Par exemple, pour ceux qui connaissent un peu la région lausannoise, les anciens dépôts Veillon sont exploités pour déposer des films de la Cinémathèque suisse, les anciens dépôts de Coca-Cola sont utilisés pour déposer des films de la Cinémathèque suisse. Donc la Confédération avec la Cinémathèque décide de développer un projet pour une extension appelée Panta 2. Elle rachète un terrain juste adjacent au bâtiment pour prévoir ce qu'on a appelé les nouvelles archives à un certain moment. Et vous voyez là les différentes procédures. Un arrêté est voté en 2005. Un concours est organisé pour choisir un projet architectural. Les chambres votent un crédit d'engagement de 49,5 millions pour la construction du nouveau bâtiment, qui est en fait une transformation de l'ancien, mais il n'en reste presque plus rien de l'ancien. Et en 2010, en septembre, commencent les travaux de Panta 2, avec une ouverture prévue au départ en 2015. Là, j'ai écrit 2018, mais ça pourrait être presque le début de 2019. Merci. Voici ce qui est en train de se construire. C'est presque terminé, mais il y a encore une partie qui n'est pas terminée, vous allez comprendre pourquoi. Si vous imaginez un tout petit peu, sur la droite, vous avez trois niveaux qui sont visiblement sous les arbres, en sous-sol. C'est ce qui a été construit dans le champ adjacent. Un dépôt de 15 mètres de profondeur qui contient trois niveaux. Tout en bas, à 5 degrés, sont conservés les négatifs, c'est-à-dire les originaux des films ou des copies uniques qui sont extrêmement rares. Dans l'étage intermédiaire sont conservées toutes les archives papier, les livres, les affiches, les photos, etc. Et à l'étage supérieur, celui qui correspond à une espèce de tunnel où vous voyez liaison, où sont archivées les copies qui circulent encore, qui partent dans des cinémas ou directement à la cinémathèque pour être projetées. Et de l'autre côté, le bâtiment, sur trois niveaux, avec un niveau pour tout ce qui est non-film, ce qu'on appelle non-film dans notre jargon, c'est le papier, les affiches et tout ça, un étage pour le film et un étage pour tout ce qui est logistique et expédition. Voilà par-dessus, si vous comprenez bien le système, en haut de l'image, ben, vous avez justement un de ces étages de dépôt avec 7 cellules différentes qui conservent les différentes bobines ou dans certains cas le papier. Et de l'autre côté, les espaces du bâtiment. Ici, on voit les espaces de la logistique en vert. Là, on est à l'étage 0. À l'étage 0, où vous avez, sur la partie où il y a de l'orange et du jaune, pour la couleur pâle, sur la droite, eh bien, vous avez une petite salle de cinéma de 40 places. L'espace orange est un tout petit espace muséal pour accueillir les gens correctement. Elle est à Gentsu encore. Les petites salles en bleu, ce sont les salles de conférence et les salles de recherche. On pourra, dès maintenant, d'ailleurs, on peut accueillir des chercheurs. Et à côté, les salles en violet sont les salles de consultation. On peut consulter des documents papier. Et il y a quatre petites salles en bleu, qui sont aussi les salles de visionnement, toujours ouvertes au public, aux chercheurs. Voici une vision, disons, d'artiste, hein, du lieu, mais il faut dire qu'actuellement, cet espace-là, qui devrait être l'espace muséal, est occupé par des bureaux et des gens qui y travaillent. Je vous expliquerai après pourquoi. On n'a pas encore pu les faire emménager dans les nouveaux locaux. Voici la vision d'artiste du bâtiment, hein, à droite encore les arbres sur le pré et à gauche le bâtiment. Pour ceux qui se rappellent évidemment ici à Yverdon d'Expo 02, la couverture du bâtiment, c'est pas du bois, c'est de l'acier Cortel, comme le cube de Jean Nouvel qui était installé à Morat. Cet acier qui rouille très rapidement, mais après qui est très résistant. Voici quelques images du chantier pour avoir une idée de ce chantier qui a quand même été assez immense et assez complexe parce qu'il fallait que ces dépôts soient extrêmement bien sécurisés, qu'il n'y ait pas de risque d'inondation, qu'il n'y ait pas de risque de quelconque accident. Tous ces locaux sont connectés évidemment avec des dizaines d'alarmes et je vous assure que pendant tout le chantier, on a vécu des... on vit encore aujourd'hui des alarmes en permanence. Et le problème, c'est que si on n'arrête pas l'alarme dans les 5 minutes, l'alarme part à Berne, donc à la police fédérale, qui nous envoie immédiatement les pompiers, la protection civile, etc. C'est déjà arrivé quelques fois. Et ce n'est pas seulement les pompiers de Pantin, hein, c'est les pompiers de Lausanne, enfin bref, une armée d'uniformes qui débarquent. C'est assez impressionnant quand vous y êtes. Un peu inquiétant parfois aussi. Voici le champ au-dessous duquel se trouvent nos archives. Et comme vous le voyez, le chantier a été construit en deux étapes. Donc vous voyez tout au fond une partie du bâtiment sur la gauche qui est déjà construite et sur la droite l'ancien bâtiment qui sera démoli, qui maintenant est démoli. Un des étages, ici l'étage destiné au film, qui est encore et toujours aujourd'hui dans ce même état. Il n'est pas encore équipé. Et quelques images des dépôts avant qu'on y installe toutes les collections. Maintenant, elles y sont sécurisées. Ça, c'est un dépôt pour les films. Ça, c'est un dépôt pour les affiches, avec des tiroirs de formats différents pour toutes les formats d'affiches que nous avons. Ça va pas très vite. Voilà. Ça, c'est un des couloirs du bunker. Là, on est à l'étage B, c'est-à-dire l'étage intermédiaire. Bien entendu, comme vous voyez les portes, nous sommes dans un abri anti-atomique, en Suisse, quand même, oublié. Voici la façade avec le logo de l'institution devant la porte. Et je dois avouer que c'est un espace qui est vraiment très agréable. Et toutes les collègues qui sont visités ces nouveaux locaux venant d'autres cinémathèques du monde trouvent qu'on a construit vraiment un véritable bijou très suisse, très modeste, mais en même temps extrêmement efficace. Et voici la cabine de projection de Montbenon, ce fameux cinématographe avec... les deux machines de projection 35 mm de Montbenon qu'on a récemment révisées et tout à l'arrière un projecteur 16 mm qu'on devine tout au fond. Mais en fait, le problème, c'est que tout ce beau projet de Panta, donc, qui a démarré en 2000, maintenant il y a près de 16 ans, est un projet qui n'a pas tout à fait pris conscience qu'une révolution était en marche au niveau du cinéma. Et cette révolution du cinéma qui était en marche, elle est là. C'est ce projecteur qu'on a rajouté depuis, qu'on a installé il y a quelques années maintenant, qui est un projecteur numérique. Parce qu'aujourd'hui, le cinéma se tourne en numérique, se restaure en numérique, se diffuse en numérique. Et évidemment, on doit aussi conserver du numérique. Ce qui fait qu'on a pu installer relativement rapidement des projecteurs numériques dans nos salles de cinéma. Mais la question de la conservation du numérique, elle n'a pas été prévue par le projet initial. La Cinémathèque avait un petit département numérique, on va dire vidéo et numérique, qui avait été sagement déménagé de Panta pendant les travaux et installé d'ailleurs pas loin d'ici, dans le Y-Park, ici dans le bâtiment où il y a Max TV, un petit bâtiment jaune que vous connaissez. Dans le rez-de-chaussée, il y a une dépendance à la Cinémathèque. On a installé les deux, trois personnes qui travaillent dans la vidéo numérique. Mais... c'était juste en pensant vidéo et un tout petit peu de numérique. On n'avait jamais pensé, dans ceux qui ont projeté Panta, que la révolution allait arriver si vite et si brutalement. D'un coup, presque tout le pays suisse a basculé de l'analogique au numérique. Presque toutes les salles de cinéma ont passé de l'analogique au numérique, et en plus de ça, elles ont détruit les projecteurs 35, et donc il n'y a presque plus de possibilité de projeter du 35 mm dans les salles de Suisse. Rares sont les salles, mais peut-être une vingtaine en Suisse qui ont encore des machines en fonction, 20 salles sur 530, qui vous donne un peu une idée de la proportion. Donc, dès mon arrivée, j'ai dû lancer un groupe de travail au sein de la Cinémathèque qui a développé un projet qui a été validé par le Conseil fédéral, qui a ensuite permis de développer un projet plus important avec une équipe de consultants français qui nous a permis de faire un nouveau projet qui est un projet de transformation du bâtiment en cours de chantier pour y installer non plus des mobiles, mais cette fois des serveurs. Des librairies LTO, je vous épargne les détails techniques, mais qui sont des librairies avec des petites bandes magnétiques qui permettent de conserver valablement les données digitales, avec des redondances, c'est-à-dire deux conservations identiques qui se parlent en permanence, et une transformation radicale de ce fameux étage film qui devient maintenant un étage film et numérique. À gauche, on travaille le film, au centre, on travaille le numérique. Alors c'est bien joli tout ça, ça c'est une salle d'étalonnage pour faire le travail d'étalonnage en numérique des films que nous pourrions restaurer ou numériser. Tout ça est bien joli, mais ça coûte. Ça signifie qu'il fallait qu'on trouve 5 à 6 millions de plus pour pouvoir aménager ça. Et deuxièmement, il fallait convaincre l'Office fédéral de la construction et de la logistique, qui n'est pas très réceptif aux nouveautés ou aux changements, qu'il était indispensable de faire cette transformation en cours de chantier. Donc, depuis 2010, je me bats avec Berne, avec toute notre équipe, pour leur faire comprendre que c'est quelque chose d'indispensable. Et l'année passée, on a passé par des moments assez difficiles et assez conflictuels avec la Confédération. La presse en a parlé. Finalement, autour de Noël, tout s'est arrangé. Merci Papa Noël, merci Alain Berset, merci les autres. On a réussi à s'arranger et finalement, les derniers signaux que nous avons, qui seront confirmés au mois de juin par le Conseil fédéral, doivent nous permettre de redémarrer la construction. Mais c'est pour ça qu'on a cet étage que vous avez vu en photo tout à l'heure, qui reste pour l'instant vide. Donc si vous avez une rave party à organiser ou un grand tournoi de ping-pong à organiser, n'oubliez pas Panta, il y a une grande halle de 2000 m² qui est disponible pour ce faire. Mais passons. Donc, nous sommes en train d'équiper notre lieu pour du numérique. Mais qu'est-ce qu'on archive? Qu'est-ce qu'on a comme trésor dans notre bâtiment? Alors, la collection de la Cinémathèque, vous l'avez compris, elle est née des ciné-clubs. Ça signifie, dans l'idée, collectionner le meilleur du cinéma dans le monde, pas seulement en Suisse. Mais vous l'avez vu aussi dans notre logo, nous sommes aussi l'archive du cinéma suisse. Donc, notre mission première, et nous sommes les seuls à pouvoir le faire valablement, c'est de conserver le cinéma suisse. Alors, le cinéma suisse commence par Guillaume Tell, forcément. Il y en a eu beaucoup qui ont été produits dans les débuts du cinéma suisse. Là, vous avez une image d'un film de Émile Harder qui est Die Entstehung der Eidgenossenschaft, Wilhelm Tell, une des nombreuses adaptations. Donc, vous avez ici une photo que nous conservons, bien évidemment, et que nous avons restaurée. Mais vous avez aussi des films comme celui-là, qui est un des rares et grands films du cinéma suisse roman, Rapt, qui est adapté de La séparation des races de Ramu, avec une musique d'Arthur Honegger, avec Corinne Aby, qui supervise le scénario à l'époque, et avec surtout dans le film la seule image de Ramu en mouvement, enfin presque en mouvement, parce qu'il fait le figurant dans un coin de bistrot avec un verre de blanc devant lui. Donc on ne le voit pas beaucoup bouger, mais enfin, c'est lui, en chair et en os. Le film est réalisé en 1934 par Dimitri Kirsanov. Et comme son nom l'indique, Dimitri Kirsanov, il n'est pas valaisien. Il est russe, un russe blanc qui a fui évidemment la Russie et qui s'est installé en Suisse momentanément avant de partir en France faire encore une autre carrière de cinéma. Beaucoup d'étrangers sont installés en Suisse dans les années 30, et c'est souvent eux qui ont, disons, donné naissance au cinéma suisse. Par exemple, ce film-là, Die Firmenjeep, qui est réalisé par Léopold Lindbergh, qui est un juif d'origine autrichienne, qui va quitter l'Autriche dans les années 30, justement face au nazisme, qui va s'installer en Suisse et va devenir le plus grand réalisateur du cinéma suisse des années 30 à 60. Die Firmenjeep est un film qu'il a réalisé en 51, dans Vienne occupée par les Alliés. Justement, on oublie souvent que Vienne a été occupée par les quatre Alliés, comme Berlin. Un film assez remarquable qui remportera l'Ours d'Or à Berlin. Je vous ai montré cette image parce qu'on vient de le restaurer. Et pour l'anecdote, on a restauré un autre film de Lindbergh que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle La Dernière Chance, Die Letzte Chance, qui a été tourné encore pendant la guerre, en 1944, et qui raconte l'histoire de réfugiés prisonniers de guerre anglais, américains et juifs qui vont s'échapper d'Italie pour entrer en Suisse, qui pose la problématique de l'accueil des juifs en Suisse, qui pose la problématique des réfugiés. On parle de 44, hein, pas d'aujourd'hui, donc qui est très intéressant aussi pour ça. Film qui a été présenté à Cannes en 46 lors du premier festival, qui a remporté un Golden Globes aux États-Unis, que nous venons de restaurer avec la télévision suisse alémanique et qui sera présenté dans quelques semaines, en deux semaines, au Festival de Cannes, comme justement dans une première restaurée dans la section des classiques de Cannes. D'autres films de cette même époque, c'est bien sûr les films de Franz Schneider, toujours produits par la même société. Ici, c'est pas Heidi, c'est Heidi und Peter, qu'on est aussi en train de restaurer actuellement. Film de 1955, réalisé par Franz Schneider, qui est le premier film en couleur de fiction de l'histoire du cinéma suisse. Et pour lequel on a des problèmes de restauration parce que les éléments originaux du film ont disparu. Et donc, on a essayé de trouver ce qu'on appelle les internégatifs, c'est-à-dire des originaux de deuxième génération, et celui qui est le plus complet, on l'a trouvé grâce à nos contacts entre cinémathèques, ni en Suisse, ni en Autriche, ni en Allemagne, mais aux États-Unis, dans les archives de la Metro-Goldwyn-Mayer. Et c'est la Metro-Goldwyn-Mayer qui nous a envoyé cet internégatif et que nous allons dorénavant conserver. Après cette grande époque du cinéma suisse, il y a aussi des films comme celui-ci, en l'occurrence Alain Tamer, on aura l'occasion d'en reparler plus tard dans la soirée, mais c'est une image de Messidor, toujours dans les Alpes, mais évidemment une autre manière de voir notre cinéma suisse. Donc il y a évidemment tout le cinéma suisse, roman des années 60 et suivantes. Ou encore un film comme celui-là, Il Bacio di Tosca, qu'on a aussi récemment restauré, film de Daniel Schmidt sur la maison de retraite pour chanteurs et musiciens classiques, la Casa Verdi de Milan. Et puis, des surprises comme celle-là. À votre avis, où est-ce que cette image a été filmée? Tessin, Valais?
Tessin.
Je vous en montre encore une.
Grison.
Bon, si on lit bien, c'est écrit Albergo, c'est difficile à lire, hein, je sais, Albergo Posta Göschenen. Et il y a déjà quelque chose qui est un peu contradictoire, parce qu'en général, à Göschenen, on n'écrit pas en italien le nom. Il y a un A de trop sur le mot poste. Bon, là, je suppose que vous reconnaissez tous l'image, en tout cas la fameuse image des diligences qui traversaient le col du Gothard et qui passaient du Tessin. Alors, en effet, ça pourrait faire penser au Tessin. Eh bien, non. Je vous rassure tout de suite, ça n'a pas été tourné en Suisse. Et pourtant, j'ai reçu, c'était en 2010, je reçois un téléphone de mon confrère de la Cinémathèque de Milan, Cinéthèque Italiana de Milan, qui a été fondée par Luigi Comencini, qui me dit, écoute, j'ai retrouvé dans nos archives, en rangeant dans une boîte, c'était mal catalogué, un négatif caméra, donc ça veut dire l'original le plus absolu, d'un film qui s'appelle Il Vetturale del San Gottardo. Ça te dit quelque chose? Puis moi je lui dis, oui, ça me dit quelque chose, je connais le film, c'est un film suisse-alémanique, produit en 1941, qui s'appelle Der Postillon vom San Gottardo, le postillon du Saint-Gothard en français, mais c'est un film suisse, et nous avons le négatif. On l'a restauré il n'y a pas longtemps. Mais non, je te jure, on a le négatif du film. Donc il y avait quelque chose qui ne jouait pas.
Donc on enquête, et l'enquête donne que en fait les producteurs de la société Heimatfilm, ça s'invente pas, suisse, qui décide de raconter l'histoire de la traversée. En fait, le film raconte l'histoire du premier percement du tunnel du Saint-Gothard. C'est très d'actualité. Donc le premier tunnel qui va au fond tuer le commerce des diligences, parce que dès le moment où il y a un train qui traverse le Gothard, il n'y a plus besoin d'une diligence qui monte et qui descend et qui en plus ne peut passer quand il y a de la neige. Donc ce scénario de film, ce projet, est envoyé par la société Heimatfilm en 1941, on est en pleine guerre, à la société Venusfilm, à Rome, en disant on pourrait faire une coproduction, hein, puisque c'est quand même un peu entre l'Italie et la Suisse, il y a un lien. Ils n'ont jamais eu de réponse. Alors les Suisses décident de faire le film, celui que je connaissais, Der Postillon von Saint-Gothard. Mais les Italiens, ben, ils ont fait aussi le film. Ils ont volé le scénario, ils ont copié le scénario, ils ont fait une sorte de plagiat un peu différent. Les deux films ne racontent pas tout à fait la même histoire. Évidemment, dans le film italien, par exemple, le Tessin n'existe pas. Hein, on a l'impression que le Gothard sépare la Suisse de l'Italie. Ils ont annexé le Tessin. Mais il y a quand même des scènes qui se déroulent au conseil d'administration des CFF à Berne, tout ça dans un film italien. Bref, on découvre que ce film avait été considéré comme perdu dans l'histoire du cinéma italien. Donc ça a été une belle découverte, on l'a restauré et on l'a présenté en première au Festival de Venise, ensemble, Fondazione Cinematheca Italiana et Cinémathèque Suisse. Donc ça a été une belle aventure. Mais évidemment la question se posait de se dire, mais où est-ce qu'ils ont tourné? Parce que s'ils ont tourné un film italien, ils n'ont pas pu accéder à la Suisse. Donc ils n'ont pas tourné au Tessin, ils n'ont pas tourné au Grison. On s'est dit peut-être qu'ils ont tourné dans Val d'Aoste ou dans la région du Piémont. On savait qu'ils avaient tourné des scènes en studio au Piémont. C'eût été logique, en dessus de Turin. Donc j'ai demandé à l'actuel directeur du Festival de Locarno de nous aider. Il connaît bien les montagnes, il est valdotin. Il disait, ça ressemble à rien, je ne sais pas. Et c'est au moment de la présentation à Venise qu'un ancien figurant du film est venu voir le film à Venise et nous a dit « Ah non, non, mais ça a été tourné à côté de chez moi. » Et c'était où, à côté de chez vous? C'est dans les Abruzzes. Donc en fait, ce Tessin que vous avez cru identifier, eh bien, c'était les Abruzzes, juste à côté de Rome, ce qui est assez logique pour une société romaine. Voilà. La Cinémathèque Suisse conserve donc des films de fiction, vous l'avez compris, des films documentaires de création du cinéma suisse, mais pas seulement. Elle prétend un tout petit peu être la mémoire audiovisuelle de la Suisse du XXe siècle. C'est-à-dire, je vous rappelle, hein, le cinéma naît en 1895, les premiers films que nous conservons datent de 1896, puisque c'est les premiers films qui ont été tournés en Suisse. Dans les années 20, la société Cinégram à Genève décide de créer le premier ciné-journal suisse, au départ muet, puis, comme c'est écrit d'ailleurs là, sonore et parlant, et pendant 10 ans, ils vont raconter ce qui se passe en Suisse, essentiellement en Suisse romande, le documenter de septembre 23 à mars 36, de la même manière que les Italiens, les Allemands, les Français faisaient les actualités cinématographiques. Certains d'entre vous, pour les plus anciens, s'en souviennent encore. Jadis, quand la télé n'existait pas encore vraiment, on voyait les actualités au cinéma avant le film qui était projeté. Et voilà, ça c'était nos actualités. Mais cette initiative du Ciné-Journal Suisse est une initiative privée qui va assez vite faire faillite. Et malheureusement, en plus de ça, dans la faillite, on va perdre énormément de sujets. Il nous reste dans nos archives 325 sujets qui ne correspondent qu'à 15% de tout ce qui a été tourné à l'époque. Mais après, arrive la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et la Deuxième Guerre mondiale pose problème au Conseil fédéral parce que les actualités qu'on reçoit en Suisse sont les actualités de la UFA allemande, sont les actualités de l'Istituto Luce italien, qui sont toutes des organisations fascistes. En plus, les actualités françaises, Pathé, Gaumont, étaient elles aussi sous contrôle allemand. Donc ils voulaient une information qui soit honnête, qui soit suisse, et qui contribuent, comme ils l'ont écrit très clairement, à la défense spirituelle du pays. C'est alors que se crée le deuxième ciné-journal suisse, qui naît en août 1940, et qui va durer jusqu'en mars 1975. Ça correspond à 7000 sujets qui vont être réalisés.
que nous conservons tous dans les trois langues nationales. Et que, si tout va bien, on va prochainement commencer à mettre online pour ceux qui consultent Internet. Donc, en dehors de ce ciné-journal suisse, du Schweizerische Wochenschau, on conserve énormément de films de montagne, de films de commande, de films amateurs. Ici, vous avez l'opérateur Charles-Georges Duvanel, qui a fait énormément de films de documentaires sur la montagne. Un film comme celui-là, qui s'appelle Die Stadt Basel, qui est un film de promotion touristique tourné en 1915 par la firme EOS à Bâle, qui dure 7 minutes, qu'on a évidemment restauré et qu'on conserve, et qui est naturellement teinté. Donc le but de la couleur jaune était vraiment dans la pellicule pour donner le sentiment de couleur à l'époque où la couleur n'existait pas. Ou encore celui-là, Eine riesenhafte Industrie, qui date de 1913. À votre avis, ça correspond à quoi? Fabrication de quoi? Bravo, du lait condensé. Ben, c'est rare que les gens le disent du premier coup. Félicitations. En effet, du lait condensé, Nestlé, forcément. Vous vous en doutez. Ou encore ce film qui s'appelle Alice au Pays Roman ou Alice in Switzerland, qui est un film produit par l'ADIL, l'Institut de promotion touristique de la région de Lausanne, qui en 1936 veut produire un film pour promouvoir les beautés de la région. Et plutôt que les promouvoir en noir et blanc, ils veulent le faire en couleur. Simplement, la couleur est balbutiante au début, et ils utilisent un système qui s'appelle le Duffet Color, qui fera faillite quelques années plus tard, et donc on a eu énormément de peine à restaurer ce film en couleur. Et il faudra attendre justement l'avènement du numérique pour que nous puissions, en numérique, au laboratoire Imagine Trovata à Bologne, trouver les systèmes pour récupérer le système de couleur du Duffet Color, qui est un système lenticulaire. J'entre pas dans les détails moi-même, j'ai toujours pas compris, mais qui permet d'avoir des couleurs qui sont pas parfaites, mais qui sont quand même une idée de couleur. D'ailleurs, sur les fleurs, ça donne des très jolis paysages. Et donc, on a restauré et redécouvert ce film, et présenté à Lausanne récemment. Et puis, très régulièrement, il nous arrive ce genre de surprise. Là, c'est au Tessin, on n'est pas loin de Menrisio, le vrai Tessin, c'est pas un truc, là. Et les personnes que vous voyez à l'entrée, à côté du petit chien, sont deux restauratrices de la Cinémathèque Suisse qui viennent découvrir le fond de Enzo Reguchi, que voici. Des milliers de boîtes, 7000 en l'occurrence, de films et ou de vidéos, d'un opérateur qui travaillait pour la télévision tessinoise, mais qui faisait aussi beaucoup de films pour lui, et qui a en quelque sorte documenté le Tessin à partir des années 50 jusque dans les années 80. C'est une montagne de films qu'on essaye patiemment de numériser, de cataloguer, d'identifier en collaboration avec la fondation qui s'est créée, Enzo Reguchi et le canton du Tessin. Le problème, il est que quand on prend une boîte en carton, par exemple, et qu'on l'ouvre, il n'y a pas seulement un film. Ben, sur la boîte, c'est marqué un film. Mais quand vous l'ouvrez, vous en avez juste un peu plus qu'un, qui sont tous des bobineaux de rush, d'éléments non montés qu'il faut visionner, identifier, voire restaurer pour arriver à les récupérer. Et ça fait partie de notre travail au quotidien. J'accélère un tout petit peu parce que le temps nous est quand même compté. Dans nos activités, vous l'avez compris, la base de notre travail, surtout à Panta, c'est l'archivage. Nous faisons ce travail à Panta, nous faisons ce travail un petit peu ici à Yverdon, et aussi à Zurich, où nous avons des bureaux et trois collaborateurs qui travaillent à la documentation de Stelle. Mais comme vous le savez, la partie émergée de l'iceberg, c'est la mise en valeur de ces collections et la mise en valeur du cinéma. Alors à travers des projections scolaires, comme ici autour de Citizen Kane avec des lycées de la région, mais aussi dans cette salle du cinématographe qu'on a récemment rénovée, cette salle qui est dans les sous-sols du casino de Montmelon avec des projections régulières de films de l'histoire du cinéma. Mais le problème de la Cinémathèque, pour moi quand je suis arrivé, c'était que la Cinémathèque n'avait pas de salle de cinéma, dans le sens, le cinématographe est une très jolie salle, probablement une des meilleures en termes techniques sur la place de Lausanne. Mais ça reste psychologiquement une salle construite dans un lieu qui n'est pas un cinéma, qui aurait dû être un casino qui n'a jamais été, et qui est considéré par les Lausannois, je ne sais pas si c'est le Lausanne, la salle, comme un non-lieu. Quand je dis qu'une projection a lieu au cinématographe, au casino ou non, les Lausannois disent « mais c'est loin ». Je veux dire, c'est à 5 minutes de Place Saint-François, voilà, 7 minutes en poussant bien, mais c'est perçu comme étant loin de la ville, hors de la ville. Et donc, nous savions qu'il était nécessaire que la Cinémathèque se recentre pour mieux exister au sein de la ville, et se recentrer voulait dire se recentrer autour d'une salle de cinéma. Eh bien, le Capitole, attention, c'est le Capitole de Lausanne, pas celui d'Hiberon. Le Capitole de Lausanne, salle mythique construite en 1929, l'une des deux grandes salles de cinéma de la ville avec le Métropole, qui maintenant n'est plus une salle de cinéma, eh bien, vous le savez, était gérée depuis 1949 par mademoiselle Lucienne Schneck de Tavannes, qui l'a portée à bout de bras. Mademoiselle Schneck me connaissait parce que quand j'étais directeur du Festival de Locarno, j'ai eu l'honneur de l'inviter à Locarno pour présenter le film que Jacqueline Veuve lui a consacré, La Petite Dame du Capitole. C'est, paraît-il, la première fois qu'elle fermait sa salle depuis 1949, imaginez, la première fois qu'elle prenait des vacances, disait-elle. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça ne me semble pas impossible. Et donc elle est venue, on s'est bien entendu, et au moment où je suis arrivé à Lausanne, je savais qu'elle voulait vendre. Elle voulait prendre sa retraite, une retraite bien méritée. Elle voulait vendre, elle avait déjà quand même plus de 80 ans, elle voulait vendre, et il y avait des Indiens qui étaient intéressés pour en faire un ciné-club indien, il y avait une église, évidemment. Évidemment, elle préférait que son cinéma reste un vrai cinéma. Et donc, l'opportunité de la cinémathèque lui semblait intéressante. J'en ai parlé à la ville de Lausanne, qui tout de suite a dit oui. Et très rapidement, la ville de Lausanne a acheté le Capitole, qui maintenant est devenue la salle de prestige de notre institution. Voici le Capitole avec plein de gens qui attendent pour y entrer. C'était au tout début, peu après l'acquisition, lors d'une projection, évidemment, première d'un film de Lionel Bayer. Alors, c'est au Capitole que nous vivons le maximum de nos activités événementielles. Salle de 867 places. Assez magnifique, restauré en 59 par un architecte neuchâtois, Monsieur Beauchard, qui vit toujours d'ailleurs. Salle, ça se voit pas, mais qui en réalité tombe un peu en lambeaux, et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on la restaure et qu'on la rénove, mais le projet est en cours. Salle dans laquelle on a présenté énormément de films suisses en avant-première, hein, La Petite Chambre, et on m'avait dit dès le départ qu'on n'arriverait jamais à la remplir, 867 places, tu parles. On l'a rempli relativement souvent, on a même déjà refusé du monde aux projections du Capitole. Alors évidemment, tous les films suisses romans, voire suisses importants, ont fait leur avant-première chez nous. Les cinéastes importants, Alain Tanner, hein, on va en parler après, est venu parmi nous. Alain Tanner, mais pas seulement, désolé, l'appareil est un peu lent, Claude Goretta, ici en compagnie de Lionel Bayer, aussi à qui lui a consacré un portrait qu'on a présenté aussi, Ursula Meyer, de la jeune génération, avec qui Cassie Motéclin, à côté d'elle, c'était pour L'Enfant d'en haut. L'hiver nomade, pour ceux qui le connaissent, hein, l'histoire des moutons et la transhumance des moutons, donc on a fait venir les moutons sur la scène. Très 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 bon. Ils sont baladés dans le public, ils sont allés saluer le public, c'est bien les moutons. Après, bon, après ils ont laissé quelques traces, mais ça fait partie du jeu. On a pris le risque. Patrick Lapp, à l'époque des Grandes Ondes, qui a gagné récemment le prix du cinéma suisse. L'expérience Blocher, où on a même engagé des gardes du corps pour avoir un peu de sécurité, parce que les gens avaient peur qu'il puisse se passer quelque chose. Jean-Louis Roy, un des membres du groupe 5 qu'on oublie un peu trop souvent, qui était venu présenter L'Inconnu de Chandigore. Jean-François Miguet, auteur de La Méridienne, un des grands réalisateurs suisses, peut-être un petit peu oublié parce qu'il est dans le chaînon manquant entre le groupe 5. Yves Hiersin, bien sûr, lors de la projection des Petites Fugues, c'est lui qui a le micro, mais il était entouré de tous ses producteurs et du scénariste Claude Murem. Donc bien Thomas Sinbar pour Mary Queen of Scots, film suisse alémanique. Désolé, il faut qu'il charge. Der Kreis, sur ce duo d'homosexuels alémaniques qui ont beaucoup d'importance durant la guerre et juste après, que voici. C'est le fameux survivant, ce fameux couple qui est venu nous rejoindre avec les acteurs qui ont joué dans le film. On a aussi présenté, alors cette fois-ci au cinématographe, à sa demande, un duo langage de Jean-Luc Godard, et donc installé un système 3D pour pouvoir le projeter. Et puis, bien entendu, ça c'est le cinéma suisse, mais on a aussi reçu énormément de cinéastes et d'auteurs étrangers, comme Wim Wenders pour présenter Le sel de la terre, qu'il a co-réalisé autour des photos de Salgado, là aussi la foule, pour le présenter. Voilà Wim Wenders, en compagnie de Salgado et de l'adjointe et responsable de la programmation de la Cinémathèque Kika Bergo aussi. La famille Chaplin, on fait partie de la famille Chaplin pour fêter le dépôt des photos de la famille au musée de l'Elysée. Enfin, tout à droite, Michael Chaplin. Anouk Aimée, qu'on avait invité lors du cycle Fellini que nous avons fait en collaboration avec l'Elysée aussi, qui avait une exposition Fellini. Abbas Kiarostami, immense réalisateur iranien, Olivia Sayas. Désolé, mais c'est. J'irai plus vite, mais il faut que je charge à chaque fois. Ordinateur, voilà. Michael Cimino, pour ceux qui connaissent, l'auteur notamment du Voyage vers l'enfer, en l'occurrence ici, il venu présenter la version intégrale de Heaven's Gate, son film maudit qui n'avait jamais été présenté et qu'il a lui-même restauré. Sacha Sokurov, un des plus grands cinéastes russes contemporains. Sylvette Baudreau, script qui a travaillé sur tous les films d'Alain René, qui est une vraie légende vivante du cinéma français, et elle est venue présenter Hiroshima mon amour juste au moment où René était malheureusement décédé. Anna Chigoula, actrice qui joue dans le film d'Emmanuel Anty. Ça vient ? Désolé. Hein. Voilà. Écoutez, j'essaie de passer. Voilà, pardon. Je saute. Yolande Moreau, pour ceux qui la connaissent, avec le micro, avec Pupo Delborn. Yolande Moreau, venue en tant que réalisatrice pour son film Henri. Amos Gitai, grand cinéaste israélien, auquel on a consacré une rétrospective. Et Vittorio Taviani, pour terminer, qui est l'un des plus grands cinéastes italiens encore vivant avec son frère Paolo, et il était venu présenter Cesare deve morire, son avant-dernier film que la Cinémathèque Suisse a distribué, puisque nous avons développé une activité de distribution pour permettre à certains films importants de l'histoire du cinéma contemporain de continuer à circuler en Suisse. Et nous avons distribué autant Cesare deve morire, qui a reçu l'Ours d'Or à Berlin, que Maravigliose Boccaccio, leur dernier film. Et nous organisons toujours au Capitole aussi des événements importants avec des films muets, notamment toute une série des films de Charlie Chaplin avec orchestre, donc la partition de Chaplin interprétée en live, en l'occurrence par l'Orchestre des Jardins Musicaux de Cernier, pour ceux qui connaissent le Festival des Jardins Musicaux à Cernier, une quarantaine de musiciens qui ont accompagné jusqu'à présent quatre films de Chaplin, on aura un cinquième encore fin août. Et ce sera la fin de ce cycle, parce que ben voilà, c'est les seuls films qu'il a mis en musique, et à chaque fois, la salle a fait sa comble, deux fois dans la journée, ce qui est tout à fait agréable. Voilà quelques-unes des affiches que nous avons réalisées, et pendant que j'essaye de les faire passer, parce que je vais mettre du temps à charger, le cycle qu'on a organisé, que vous avez peut-être vu si vous allez à Lausanne, dans les rues de Lausanne, qu'on a parfois organisé en collaboration avec le Festival de Locarno, avec lequel nous collaborons pour des grandes rétrospectives, ou avec la Cinémathèque française, ou avec d'autres institutions. Dire deux mots peut-être du fait qu'au niveau du Capitole, la ville de Lausanne a voté à l'unanimité, ce qui est quand même assez exceptionnel, un premier crédit d'étude de 1,3 million pour qu'on puisse travailler à l'étude de la rénovation et au développement du Capitole, qui devrait devenir une vraie maison de cinéma, avec d'autres, entre guillemets, d'autres éléments, une médiathèque, un magasin, vraiment un lieu de cinéma et un lieu de vie du cinéma, et surtout une deuxième salle dans les sous-sols de la salle actuelle, en creusant dans le rocher. Donc une rénovation du lieu d'aujourd'hui, mais avec aussi un lieu supplémentaire qui nous permettrait de concentrer toute l'activité de la Cinémathèque au Capitole. Et voici, en fait, la carte postale de Nouvel An que nous avons éditée pour à la fois rendre hommage à l'équipe de la Cinémathèque qui a vécu et qui vit encore en partie dans un chantier pendant plusieurs années. Une équipe qui est aujourd'hui composée d'une soixantaine de personnes, à peu près 60 salariés, plus une quarantaine de personnes qui sont des auxiliaires, qui sont mandatées ou qui ont des cachets pour faire la caisse, pour des travaux de recherche, et ainsi de suite. Donc, une centaine de collaborateurs qui forment la Cinémathèque. Et la Cinémathèque avait l'habitude d'envoyer des cartes postales avec des jolies photos issues de sa collection et à Nouvel An, et on s'est dit, mais c'est un peu dommage, il faut qu'on montre qu'on est en chantier. Et donc, pour montrer qu'on est en chantier, on a décidé, on réunit chaque année toute l'équipe dans le chantier, comme ça, les gens du monde entier sauront qu'on est toujours en chantier. Et c'est devenu une sorte de feuilleton que nos confrères de Cinémathèque adorent. Alors, ça a été la première édition, ça c'était la deuxième, on était déjà sur le toit. Donc on avait fini de creuser, on remontait, photographié depuis la grue, tout en haut, dans les premiers couloirs terminés du dépôt. Pour bien faire comprendre qu'on a construit une partie du bâtiment, mais pas l'autre, donc comme vous voyez, à gauche c'est construit, à droite c'est pas construit.
Et une image qui devrait venir, mais qui visiblement ne veut pas venir. Non, elle ne veut pas, elle est trop lourde. Tant pis. Voilà, vous ne la verrez pas, mais c'était une image où on était à l'intérieur de la fameuse halle de ping-pong dont je vous ai parlé, pour dire que oui, on a fini, mais on n'a pas fini totalement d'aménager. En résumé, la Cinémathèque, c'est ça, le centre de compétences nationales pour tout ce qui touche à la conservation, l'archivage, la restauration, la diffusion, la éducation au cinéma et des images en Suisse. Un lieu de référence pour le pays, ses habitants, ses créateurs, ses chercheurs et une vitrine ouverte sur le monde. Je vous remercie.